ça va bien.
Bonjour Sandra, ça va très bien et toi?
Ben certainement. Alors, c'est un plaisir, comme toujours, d'être en direct de Montréal et Maison Alfort, je présume?
Exactement, dans la banlieue
en
de Paris.
France. Tout à fait. Alors, c'est un entretien qu'on s'apprête à avoir, toi et moi. Donc, moi-même, rapidement, Sandra Péloquin, secrétaire générale pour l'association Le Groupe de Montréal, plus connu sous son nom anglais, The Montreal Group. Et Pascal Lagarde, qui est le chairman, donc le président du conseil d'administration de l'association, mais bien avant tout, évidemment, directeur de l'équipe exécutive également chez BPI, la Banque publique d'investissement en France. Alors, Pascal, si tu me permets d'entrée de jeu, je vais prendre 2 minutes simplement pour mettre la table pour les auditeurs, les auditrices. Et on est en train de faire un enregistrement du premier entretien, une série d'entretiens qu'on veut avoir avec les membres du conseil d'administration et ou chefs d'entreprise des banques de développement qui font partie du Groupe de Montréal. Et pour ceux qui nous écoutent, qui sont moins familiers, le Groupe de Montréal est, comme je le disais, un organisme sans but lucratif qui regroupe à ce jour 10 banques de développement appartenant à l'État et qui ont comme but de supporter la micro, petite et moyenne entreprise de façon domestique et qui se joignent au groupe pour essentiellement échanger des meilleures pratiques, mais aussi s'inspirer de ce qui se fait ailleurs et dans le but ultime de pouvoir avoir davantage d'impact lorsqu'ils reviennent à la maison pour aider les PME. Alors, Pascal, c'est important de mentionner à ceux qui nous écoutent que l'enregistrement se fait à l'automne 2020. Alors, on est au cœur de la deuxième vague de la pandémie du COVID-19. Et le but de l'entretien sera, entre autres, de faire connaître BPI et aussi de positionner les différentes interventions de BPI dans le cadre de ce momentum international englobant les conséquences de la pandémie. Alors, je voulais simplement, avant de te laisser la parole, parce qu'évidemment, c'est le but, je voulais prendre quelques secondes pour parler de ton profil. Alors, si on retourne dans le temps, tu as fait le choix d'aller à la Polytechnique, donc d'étudier en ingénierie. Et tôt dans ta carrière, tu as été ingénieur en chef de l'armement dans le secteur des télécommunications militaires en France. Et c'est 8 ans plus tard que tu as continué toujours dans le secteur de l'informatique et des télécommunications, mais au sein du ministère de l'Industrie. Et c'est pas ensuite à l'aube de l'an 2000 que tu es entré dans l'arène de l'univers ou de l'écosystème de la petite et moyenne entreprise française, alors que tu étais nommé directeur du département de capital de risque et d'amorçage chez CDC PME. Et bon, tu as, semble-t-il, monté les échelons, eu différents postes au sein de cet organisme qui a fait partie là, par la suite de la fusion de plusieurs organismes qui est devenu BPI France aujourd'hui. Et finalement, si je comprends bien, c'est depuis 2013 que tu occupes les fonctions que tu as présentement, c'est-à-dire directeur de l'exécutif de BPI France en charge de l'international, de la stratégie, des études et du développement. Alors voilà ma première question, Pascal. Comment un ingénieur en chef de l'armement finit-il par travailler en faveur de l'avancement des PME françaises?
Alors c'est en effet pas immédiatement naturel. En fait, ingénieur en chef de l'armement, j'ai passé une première partie de ma carrière dans la partie d'achat et de développement de programmes d'armement au sein du ministère de la Défense. Donc ingénieur en chef, c'est lieutenant-colonel en fait, hein. Et je dirigeais des programmes assez avancés dans les télécommunications pour les forces terrestres notamment. Donc j'ai fil conducteur qui m'a amené à aller faire du capital risque, ça a été en fait la technologie et le lien avec les grands laboratoires de recherche français. Donc c'est ce qui m'a amené vers le ministère de l'Industrie. Au ministère de l'Industrie, je me suis occupé de composants électroniques, qui est un sujet que je connaissais très bien suite à mon passage au ministère des Armées. Puis je suis devenu sous-directeur en charge du secteur télécom et informatique au ministère de l'Industrie. Donc pas des télécoms et de l'informatique du ministère de l'Industrie, mais du secteur économique. Et quand j'ai voulu changer d'activité, en fait, la Caisse des dépôts crée cette nouvelle activité de de soutien en capital aux PME et notamment créer une activité au capital risque et amorçage en fait qui était toute nouvelle en fait. Je suis arrivé en 2003 à devenir le directeur général de cette filiale de la Caisse des dépôts qui, comme tu l'as dit, a été intégrée dans BPI France. C'était un des trois grands organismes de BPI France. Puis elle était toute petite au début à la caisse et puis on a terminé en gérant plus de 7 milliards d'euros d'investissement. Donc c'était
oui, c'est ce que j'ai lu. Et je pense qu'il y avait plus d'une centaine d'employés aussi là.
Exactement,
quand même.
Plus d'une centaine d'employés qui sont tous allés dans BPI France et ça fait partie des les activités de CDC Entreprises ont été intégrées dans BPI France et ils font partie des grandes activités de la maison. Et à la création de BPI France, moi j'ai pris un poste qui était plus transverse sur l'intégralité de nos activités puisque j'ai en charge plusieurs types d'activités assez connectées en fait, internationales, donc les relations internationales, c'est à ce titre que je siège au Montréal Group.
Oui, tout à fait.
Un excellent partenariat historique avec BDC également, mais c'est aussi les activités européennes, le lien avec la Commission européenne, avec la Banque européenne d'investissement. C'est aussi les activités d'expertise internationale. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses à l'international. Ce ne sont pas les financements internationaux qui font partie de la direction export, en fait. J'ai en charge également la stratégie du groupe. Le pilotage du plan stratégique, son suivi, etc. Plus un ensemble de fonctions transverses, notamment de développement produit. J'ai en charge également tout ce qui sont les études amont, les études d'évaluation d'impact, les études de BPI France Le Lab, que on produit pas mal de choses très pragmatiques pour les entrepreneurs autour des nouvelles tendances. Hein, on vient de sortir une très belle étude autour de la position des patrons de PME et d'entreprises de taille intermédiaire sur les problématiques climatiques, par exemple, qui nous a servi notamment à parfaire nos stratégies climat. Voilà, et puis on fait des évaluations d'impact de ce qu'on fait. Et le dernier sujet, c'est autour du développement durable, tout ce qui est ESG, tout ce qui est RSE et bien sûr dedans le climat. Voilà.
Oui, c'est beaucoup. Et par curiosité, ça fait combien d'employés sous ta gouverne?
Ça fait à peu près 70 personnes.
OK, excellent. Oui, c'est ça. C'est quand même assez relié, mais c'est très stratégique. J'aimerais bien te poser beaucoup de questions sur chacun de ces piliers. Mais si on garde le contexte actuel, comme j'expliquais d'entrée de jeu avec la pandémie, en trois mots, si on avait expliqué ce que représente BPI France pour la PME française dans l'écosystème des prêteurs, tu le décrirais comment?
BPI France, c'est la banque des entrepreneurs. On fait que ça. On est la banque des entrepreneurs et on est la banque de confiance des entrepreneurs.
Wow, c'est le taux de pénétration en France, disons, de BPI, parce que ça reste une banque qui est complémentaire, si je ne m'abuse, à l'ensemble des banques plus traditionnelles.
Oui. On a des pourcentages de marché qui sont différents en fonction des activités, qui vont de, je dirais, quelques pourcents à une vingtaine de pourcents en fonction du type d'activité.
Dépendamment, ok.
Voilà, et on fait à peu près entre 70 et 80 000 opérations par an.
Wow, oui, non, c'est quand même assez présent. Donc, en général, la PME française, si on lui parle de BPI, elle va savoir de qui on parle, de quoi on traite.
Oui, BPI France est une marque de renommée très forte, en fait, hein, qui est très connue des entrepreneurs et qui présente une série de valeurs et de quelque chose que les entrepreneurs aiment bien. Nos quatre valeurs, hein, c'est proximité, simplicité, volonté et optimisme. Ce sont des valeurs
superbes.
Ouais. Qu'on a établies vraiment au début de BPI France et notre baseline, c'est servir l'avenir.
Si on retourne au volet stratégie, étant donné que c'est sous ton leadership, la stratégie, que ce soit pour la PME, une banque, toute entreprise, toute organisation doit avoir une stratégie bien pensée qui est constamment réévaluée. Est-ce possible de savoir, en temps de COVID, est-ce qu'il y a eu un pivot important par rapport à la stratégie qui avait été établie par BPI France avant la pandémie? Et si je peux élargir la question, est-ce que tu es en mesure de nous partager les grands axes stratégiques de BPI France pour, disons, l'année à venir ou les 5 années à venir?
Alors, peut-être avant de dire quels sont les grands axes et répondre à ta question, peut-être très rapidement, qu'est-ce qu'on fait comme type de service financier ou non pour les entreprises? Alors, on est présent sur le capital investissement, risque, capital développement, LBO, jusqu'aux investissements dans les grands groupes, en fait. On a un investisseur de très grands groupes comme le groupe Peugeot, par exemple. Après, on a une activité d'investissement dans les fonds d'investissement de type capital développement marché. Donc, c'est du fonds de fonds. Aussi dans le domaine de la garantie, on garantit les prêts des banques pour les PME. On fait aussi nous-mêmes du prêt en direct, que du prêt d'investissement ou du prêt court terme. Nous sommes également présents dans le domaine de l'assurance export. Puis on a également une activité qui est nouvelle également, qui ressemble à ce que vous faites à la BDC, qui est toute la partie accompagnement non financier, accompagnement stratégique, accompagnement management, consultation, mise en réseau. On a la BPI France Université pour les patrons de PME et d'entreprises de taille intermédiaire.
Excuse-moi de te couper, Pascal, mais c'est vrai, pour connaître plusieurs modèles de banque de développement, celui de BPI est un modèle qui est à suivre parce que il est extrêmement complet.
Et ce qu'on dit toujours, c'est que la banque publique la plus proche dans le monde, c'est la Banque de développement du Canada.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc, alors, quels sont nos grands axes de développement? Ça a été avant le Covid, ça a été bien évidemment le climat, le financement de la technologie, de la deep tech, ce qu'on appelle la technologie profonde. Ça a été le développement de nos activités de gestion pour compte de tiers sur les grosses opérations. C'est également le développement de nos prêts sans garantie, c'est-à-dire sans caution ni garantie pour que les entreprises puissent financer leurs besoins en fonds de roulement ou leurs actifs incorporels. C'est aussi l'accès des PME à l'export, qui est un des sujets très difficiles de l'économie française. Ça a été le développement massif de l'accompagnement non financier des entreprises. Voilà, conservé beaucoup en post-Covid. C'est vrai que la phase de confinement a été une phase dans laquelle on a fait beaucoup d'opérations dans lesquelles on a été dans l'urgence. Hein. On a mis en place des séries de prêts et de garanties très rapidement. Puis il y a eu le grand programme de l'État français qu'on a appelé les prêts garantis par l'État. Qui sont maintenant 160 milliards d'euros, qui est de prêts garantis par l'État français, dans lesquels nous avons été le distributeur de cette garantie. Donc on a créé à toute vitesse une plateforme électronique. On a fait également dans cette période difficile un travail très fort avec les régions françaises qui voulaient faire des choses complémentaires. Donc on les a aidés à déployer leurs produits financiers également. Et donc en ce qu'on appelle la relance, hein, le rebond. Donc qu'est-ce qu'on a comme grands axes là? Donc il y a eu une annonce là, en fin de semaine dernière par notre nouveau Premier ministre Jean Castex de ce qu'était le plan de relance global du gouvernement. Nous on s'insère dans la partie pour les entreprises évidemment. Donc on est totalement cohérent avec ce plan, mais on a notre propre vision des choses puisqu'elle est purement sur les entreprises. Donc pour nous, il y a 4 grands axes. Il y a d'abord donner accès à un financement long pour les entreprises. Donc on passe de traiter l'urgence à pouvoir donner des financements longs pour qu'elles aient le temps de se relancer, de rebondir, de repartir, de se transformer avec les nouveaux paradoxes, les nouveaux paradigmes post-Covid. Ouais. Et ça peut être des prêts longs, des garanties pour les banques un peu différentes. Voilà. Et puis voilà, c'est le moment de renforcer le capital. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, je crois qu'il est essentiel, c'est l'axe climat. Donc c'est l'axe dans lequel on dit, on a une relance verte. Donc c'est à la fois doubler notre action purement climat, verte, passer de 3 milliards à 6 milliards en 4 ans, puis transformer toute la banque en une banque totalement climat compatible en fait. Troisième grand axe, c'est le développement de ce qu'on appelle la French Fab, après la French Tech. Donc c'est l'industrie hein, qui a durement souffert pendant la crise, avec des secteurs difficiles hein, comme l'aéronautique, l'industrie du tourisme, etc. Oh. Et puis l'arrivée de ce qu'on appelle l'industrie 4.0, la numérisation de l'industrie, etc. Donc ça, c'est vraiment un autre axe de relance très important. Et puis tout ce qui tourne autour de la relocalisation, avec l'idée de non pas de moins faire d'échanges internationaux, mais d'avoir des choses un peu plus stratégiques qui seraient, je dirais, plus accessibles. Et le quatrième axe, c'est un axe évidemment continuer le développement de la technologie, avec poursuivre tout ça, et notamment la technologie dans les green tech, donc la technologie liée au climat.
Ok, toujours dans l'axe.
Voilà, mais avoir un vrai axe climat. Donc quatre axes de relance qui sont totalement en ligne avec ce qu'a annoncé le gouvernement. On est un acteur important de la relance gouvernementale. Les deux mesures très très importantes pour les entreprises, ça a été le prêt garanti par l'État et le remboursement du chômage partiel. Enfin, le premier exemple est un exemple très important de où on a fait avec l'État. Et puis, on a aussi des discussions importantes avec le ministère des Finances et de l'Économie sur ce qu'on voit nous sur le terrain, comment on voit les choses, etc. Et ça a été une discussion très intéressante, en fait. Hein. Et je pense que...
Très apprécié des entreprises.
Oui, je pense qu'on arrive à faire des choses plutôt, plutôt positives. Bon, voilà.
Et Pascal, c'est sûr qu'on personne ne souhaite traverser une pandémie de la façon qu'on l'a traversée là, avec la vague de mars à mai 2020. Mais est-ce que BPI peut tirer certaines leçons de ce qui s'est passé pendant la crise et de la rapidité avec laquelle il faut pivoter, il faut s'adapter. Est-ce qu'il y a certaines leçons qui ont été tirées, pas forcément pour être prêt pour un second épisode, mais quels ont été les défis les plus grands?
Alors, il y a eu plusieurs niveaux de défis et je pense que c'est difficile d'amener toutes les conséquences. Mais je vais me mettre sur le point de vue de BPI France cette fois-ci. Comment est-ce qu'on a fonctionné, qu'est-ce qu'on a appris, etc. D'abord, on avait déjà travaillé dans le passé d'un point de vue stratégique sur qu'est-ce qu'on devrait faire rapidement si jamais on avait ce qu'on appelait un retournement de cycle à l'époque,
c'est-à-dire la deuxième vague.
Voilà, ça décroche. Donc les choses qu'on avait préparées à l'époque, on les a utilisées en fait. Ça c'est première chose.
Excellent.
C'était prêt dans les étagères, on les a sortis, on les a utilisés.
Waouh, super.
Donc ça c'était vraiment bien, enfin en tout cas une partie. Le deuxième sujet, c'est que on s'est rendu compte sans doute de combien il fallait être agile dans les technologies de l'information et dans les systèmes supports pour arriver à répondre vite aux besoins.
Et ça, c'était
un gros choc.
Se transférer en mode digital, ouais.
Ouais, ça a été un gros choc. Ça a été dur, je pense. On a réussi à bien réagir. Les équipes ont été sous une pression extrêmement, extrêmement forte, notamment les équipes informatiques.
Ouais, l'équipe des technologies.
Voilà, très très forte. Mais ce qu'on en tire de très très bien, c'est que qu'on a réussi à développer à ce moment-là, sur la base d'existants, sur la base de coopération avec des clients proches, des gens dont on savait qu'ils avaient des technologies intéressantes qu'on pourrait intégrer. Ça, on l'a fait avec un développement extrêmement moderne, en fait. Et ce qu'on en a tiré, c'est des moyens qui maintenant vont nous être très 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 utiles pour aller plus loin.
Avoir plus d'impact. Il y a un effet exponentiel.
Ouais, exactement. Après leçon qu'on a tiré, c'est que très vite on s'est rendu compte qu'on pouvait pas se baser sur la crise précédente pour cette crise-là qui était fondamentale.
Ah oui. Celle de 2008-2009.
De manque de financement standard, mais de besoins spécifiques, et puis qu'on n'était pas du tout dans une crise super structurelle sur les finances, mais une crise qui était économique, donc qui touchait les domaines, enfin les secteurs économiques de façon extrêmement différenciée, que donc il fallait avoir une façon de voir les choses assez différente et qu'il fallait sans doute aller chercher faire un travail de fond sur un ensemble de secteurs très durement très durement touché. Donc ça, on s'en est rendu compte au bout d'un moment. C'était très, très intéressant.
Ah ouais, ouais, ouais.
Voilà.
Cette adaptation, et puis, ben, c'était jamais vu.
L'autre point qui a été une réaction, on a très tôt mis en place un numéro vert, ce qu'on appelle un numéro vert en France, c'est un numéro gratuit, en fait, c'est un gros numéro avec des gros services derrière, quoi, pour les entrepreneurs qui se posaient des questions. Et on a été très vite dépassés par le nombre de questions, le nombre d'appels, tout début. Et comme on avait du mal à gérer, on a demandé au personnel en disant vous êtes au confinement, donc certains d'entre vous ont peut-être un peu plus de temps, donc merci de savoir qui sont les volontaires. Et on a eu un nombre de volontaires incroyable, de gens qui se sont formés sur les produits, ce qu'on pouvait faire, etc., ce qui était faisable, rerouter les entrepreneurs sur des questions plus d'emploi ou des choses comme ça. Et il y a eu un élan de solidarité incroyable qui était très...
Une réaffectation temporaire, ouais, du...
Voilà, très, très positif. Au bout d'un moment, c'est retombé parce que l'information est passée par plein de moyens, les gens savaient, mais il y a une appétence de ce besoin, et on a beaucoup travaillé ça, les équipes d'accompagnement aussi, beaucoup travaillé avec les...
Les services non financiers pour...
Sur le court terme, sur l'approvisionnement, etc., très vite. Donc il y a eu cette notion d'agilité, je pense qu'il va falloir qu'on la conserve, qu'on la garde en nous.
Oui, totalement. Ben je crois qu'on peut s'entendre sur c'est un nouveau mot-clé. Je pense qu'on passe du mot-clé innovation qui a été utilisé à toutes les sauces. Maintenant, je pense que agilité, c'est le nouveau mot. Mais qui prend tout son sens, surtout dans le contexte qu'on connaît. Et une question qui est peut-être plus personnelle, mais je suis curieuse de savoir ta compréhension de qu'est-ce que tu lis par rapport à la présence des PME françaises avec la transaction en ligne, avec la possibilité de faire des affaires en ligne. Est-ce que tu as l'impression qu'en général, la PME française, elle est très agile avec ses plateformes? Est-ce qu'elle a intérêt à l'être davantage? Est-ce qu'elle a tiré profit de la situation?
C'est une excellente question. De façon générale, la digitalisation des PME françaises n'est pas un des meilleurs de l'OCDE, loin de là.
Au Canada non plus.
Nous sommes plutôt à la traîne, avec évidemment des différences extrêmement marquées entre différents secteurs, etc. Donc là, ça a été sûrement, et on le pense, un accélérateur de volonté de digitalisation, hein, ça c'est clair. Il y a eu beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui ont d'un seul coup créé des petits sites web pour faire de la livraison à domicile ou des choses de ce genre-là. Il y a eu ce développement. Moi, je pense que c'est plutôt bénéfique. On pense aussi que j'ai oublié d'en parler, mais c'est un des points importants pour la relance. Donc on va déployer quelque chose autour du financement de la digitalisation des petites PME, TPE, etc. Peut-être pas tout de suite, mais dans les mois qui viennent, hein, parce qu'on pense que c'est très utile.
Je suis très d'accord.
Et franchement, c'est un vrai sujet. Alors, est-ce que ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite parce qu'on partait de plus bas? J'en sais rien.
Pascal, si je t'amène sur le sujet du groupe de Montréal, est-ce que tu peux nous partager un peu l'expérience de BPI France au sein du groupe? Est-ce que vous tirez profit des interactions, des différentes tables d'échange?
Oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est assez actifs, parce que ce qu'on aime bien avec le Montréal Group, c'est qu'on échange des informations sans tabou réellement, quoi. Tout le monde est totalement transparent, tout le monde voit qu'on n'est pas au même niveau les uns avec les autres, que par exemple BPI France,
même les modèles.
Il y a quelques années, qu'on était au niveau de digitalisation de la banque elle-même, pas forcément au même niveau que d'autres dans le groupe.
Oui, tout à fait.
Et on a beaucoup profité et on arrive à la façon de fonctionner de Montréal Group qu'on a mis en place, que tu as mis en place, est assez utile de ce point de vue-là, parce qu'en fait, c'est pas juste un groupe où les gens du management des banques discutent entre eux de ce qu'on pourrait faire, c'est aussi au niveau des équipes elles-mêmes.
Les experts,
d'échanger, de comprendre ce que les autres font, de savoir ce qui se passe, de se dire ben ça c'est pas idiot, peut-être que je pourrais le faire comme ça, vous allez trouver une solution, de trouver des points de contact pour passer un coup de fil, et puis de produire des choses ensemble avec des positions qui sont de dire des choses que On arrive à dire parce qu'on a un groupe diversifié, mais assez puissant dans nos différentes géographies. Donc ça c'est très intéressant aussi. Et puis évidemment, beaucoup de convivialité également entre pas mal de personnes qui se connaissent depuis assez longtemps maintenant et qui peuvent aussi prendre leur téléphone pour dire bon ben voilà, j'ai ça, 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 ça m'embête, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et en général, ben les gens disent ben oui, je vais faire. Voilà, donc ça
Ouais, c'est très, ouais,
c'est une
totalement.
bonne chose. Après,
C'est la
il y a
traduction.
l'informel aussi qui compte beaucoup, hein, je trouve.
Absolument, oui. J'appuie totalement. Évidemment, je suis un peu biaisée étant la secrétaire générale, mais j'appuie ce que tu dis là. Et je le vois, évidemment, je suis au cœur des échanges. Et comme tu sais, on a, dans la foulée de tout ce qui se passe, un groupe de chefs économistes qui s'est formé pour partager sur une base régulière l'avancement des interventions dans chacun des pays pour essayer de comprendre l'avancement, être un peu plus précis sur peut-être certains pronostics, comment se positionner comme banque par rapport au PME, etc. Et pour avoir la chance d'écouter sur ces types d'échanges, c'est vraiment extraordinaire. On arrive vers la fin. Je pense que c'est quand même assez long là, pour avoir les auditeurs, les auditrices qui nous tiennent, qui sont avec nous. Pour terminer, peut-être Pascal, je me demande, selon toi, quels sont les deux plus grands défis auxquels les banques de développement seront confrontées peut-être au cours des 5 prochaines années? Tu as parlé beaucoup du climat et je pense qu'il reste énormément à faire.
Non, je pense que le climat, il va demander beaucoup d'expérimentation, de travail en commun, de partage de bonnes pratiques, essayer de trouver la meilleure façon d'avancer. Il y a une sorte de consensus autour de la nécessité de développer les
D'en
technologies
faire
et les
plus.
moyens qui vont bien. Il y a tout l'axe, je dirais ESG, finance inclusive, qui est non financier dans la finance, quoi. C'est-à-dire comment on rajoute dans nos critères habituels de financement. Mais ça, je crois que c'est une demande assez forte. En tout
Pour
cas,
les banques de développement, tout à fait. Parce que souvent, c'est un manque à combler dans le marché.
exactement, oui.
Pour le vrai mot de la fin cette fois-ci, si on le garde pour les entrepreneurs, qu'ils soient français, canadiens ou autres, quel serait ce message?
Écoute, c'est très simple. Je leur dirais oser.
Osez, j'adore.
Juste oser.
Juste oser et surtout peut-être, et surtout en ces temps incertains, oser. Absolument, bien d'accord, je supporte. Un grand merci, Pascal, pour ton temps. Je sais qu'on va se reparler à de nombreuses reprises pour toutes sortes de belles occasions. Et je te souhaite un bel après-midi en France et je me garde le restant de la journée ici qui est à peine entamée à Montréal, au Canada. Au
Écoute,
plaisir.
merci Sandra, c'est toujours un plaisir de discuter ensemble et merci pour cette occasion de parler, d'avoir parlé de BPI France et de ce qu'on y fait et puis du Montréal Group, bien évidemment. Et juste une petite remarque, en fait, pour moi, c'est plus l'après-midi, ça commence à être déjà le soir.
Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est
Voilà.
parce qu'on a parlé longtemps, tout à fait. On s'est
Voilà.
connecté en après-midi et on est rendu en soirée.
Exactement. Exactement.
Et
Allez,
voilà. Absolument.
bonne soirée. Bye bye.
Bonne soirée, Pascal. Au
Au
revoir.
revoir.